Le dimanche passé, nous avons commencé et je vais rapidement faire un résumé tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire Actes 9, 3 à 6. Actes 9, 3 à 6, c'est la rencontre de Saul de Tarse avec le Seigneur. Actes chapitre 9, versets 3 à 6. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il s'agit de Paul ici. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre tes aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il y a deux questions majeures auxquelles nous devrions avoir des réponses en nous inspirant de cette histoire avec la rencontre de Paul. Et vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des personnes qui marchent, je dirais, pour Dieu, pas avec Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu et qui ne l'ont jamais rencontré, mais qui font des choses pour Dieu. Pourquoi ? D'ailleurs, sur la base de la tradition, de l'héritage, du mouvement. On peut se retrouver embarqué dans un truc et on peut penser finalement que on est de Dieu. Parce que je vois, on me regarde comme ça, je peux me mettre debout. Ça, vous allez bien me regarder. Voilà. Donc, et ici, nous voyons la rencontre d'un homme appelé Saul qui va devenir par la suite Paul. Ce qui m'interpelle ici dans la vie de cet homme, c'est non seulement il reçoit une visitation du Seigneur de façon extraordinaire, mais c'est la question qu'il pose au Seigneur. Il dit, Seigneur, il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est une question. Qui es-tu? Nous revenons à ce que j'ai souvent l'habitude de dire ici sur la fameuse question de qui est-il? Parce qu'avant qu'il fasse pour Dieu, il fallait d'abord qu'il sache qui il était. Nous sommes en train de parler, de chercher premièrement le royaume de Dieu dans le cadre de l'évangélisation, mais c'est également dans la maturité. Mais comment pouvons-nous faire si nous ne savons pas qui il est? Et on le verra un peu plus en profondeur, qui il est. Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Avant de dire, que veux-tu que je fasse? Souvent, on veut faire des choses sans savoir pour qui on les fait.
C'est vrai.
La nature nous enseigne comment je vais vous l'expliquer? Le sérieux dans un travail est en fonction de celui aussi qui vous a embauché. L'importance et la valeur que la personne qui vous a embauché représente à vos yeux. Si la personne qui vous a embauché vous a donné un travail, une personne que vous ne considérez pas, ben vous ferez le travail comme vous le voulez. Vous ne travaillerez pas de la même manière à la présidence de la République que chez un artisan ordinaire. Pour la simple et bonne raison, c'est que les deux entités n'ont pas les mêmes exigences. Chez l'un, on sera plus exigeant, plus pointu. Chez l'autre, on peut dire, oh, on va faire comme ça. Donc, le vrai problème aujourd'hui dans la vie chrétienne, de plus en plus, je suis en train de sillonner les églises en France, là. Et c'est le même besoin qui revient. Je me rends compte. Tant qu'il n'y aura pas, j'insiste là-dessus, la prise de conscience de qui est Dieu, là, notre vie chrétienne sera toujours comme ça. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, je dis bien une prise de conscience, parce que souvent il nous manque cette prise de conscience-là. Je leur ai pris l'exemple à Besançon. Je dis une personne qui sort de prison à qui on met un bracelet électronique au pied. Et on lui dit qu'avec ce bracelet électronique-là, il y a des zones, il y a des secteurs où tu ne dois pas aller. Parce que si tu y vas, ça va faire bip, bip, bip. Et tu vas avoir des problèmes. Et souvent, le fait d'avoir ce bracelet électronique là, ça discipline la personne. Parce que tu sais que si tu vas au-delà des limites, ça va faire bip, bip, bip. Donc finalement, la vie de ces personnes devient rongée autour de ce qu'ils ont au niveau de leurs pieds. Donc ils ne peuvent pas faire certaines choses à cause de ce bracelet. Mais non, faisons la transposition avec nous qui sommes dans le Seigneur et qui avons reçu le Saint-Esprit en nous, qui est un gage, qui scelle notre appartenance à Dieu, qui est un peu cet antivirus qui réagit lorsque nous faisons ce qui n'honore pas Dieu. Mais non, le problème c'est que nous les chrétiens, on a moins conscience de l'Esprit de Dieu en nous qu'un païen à qui on met un bracelet électronique et qui va régler sa vie par rapport à ça. Une femme enceinte qui est sérieuse, pas celles qui ne sont pas sérieuses, elle sait, à cause de sa grossesse, à cause de ce qu'elle porte en elle, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Il y a certaines, dans tous les cas, son corps va réagir, dans tous les cas, il y a certaines choses qu'elle ne va plus manger, elle ne va plus supporter certaines choses, il y a certains vêtements qu'elle ne va plus porter, parce que, à cause du fœtus qui est en elle. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, et que je me pose encore avec les églises que j'ai faites depuis son enfance, mais comment se fait-il qu'on a du mal à garder, je dis bien de garder, parce que ce n'est pas qu'on ne croit pas, à garder cette prise de conscience au point où on se dit partout où je vais, il est. Je n'ajoute pas autre chose, je dis seulement il est. Trois points de suspension. Partout où je vais, il est. Et comme Dieu est esprit, il n'est pas comme vous et moi, dans nos pensées, il est. Quand on conçoit des mauvaises choses dans le cœur, il est là-dedans. Dans les endroits bizarres où on va, il est là-dedans. Quand on se retrouve en petit groupe ou bien on est en train de parler du mal à quelqu'un, il est là présent. On a un problème de prise de conscience de la présence de Dieu qu'on ne voit pas mais qui est bien réel. C'est ça le problème. Nous ne voyons pas l'air, mais nous sommes conscients qu'il y a de l'air quand même sur la terre. Qui a vu l'air? Qui a vu l'oxygène? Personne. Mais on est conscient, on le sait. Mais le problème de Dieu, c'est ça. On ne peut pas faire les choses avec et pour Dieu si on ne comprend pas qui il est. Si on ne comprend pas nous-mêmes ce qui s'est passé, c'est pourquoi le dimanche passé j'ai parlé de nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu si on n'est pas né de Dieu. Et qu'est-ce que cela implique la nouvelle naissance? Ça implique beaucoup de choses que nous devons juste bien intégrer, pas juste savoir en termes d'information, intégrer ce que je suis devenu. Parce que si vous n'intégrez pas ce que vous êtes devenu en Christ, ça justifie comment nous nous comportons. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple de Dieu? Il dit, ne savez-vous pas que... La Bible déclare que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. La Bible l'affirme. N'allez pas chercher Dieu très loin. Dieu vit en vous par le Saint-Esprit. Parce que c'est plus facile pour nous de dire, le Saint-Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a inspiré. Mais nous oublions même que le même esprit dont nous parlons, c'est Dieu lui-même. Oui, c'est très facile de le dire. On le dit comme ça de façon aisée. Oui, je sens l'esprit m'a inspiré, l'esprit m'a poussé. Mais cette prise de conscience, là, nous devons l'avoir en permanence. Il faut qu'à un moment donné, ça devienne automatique. Tu dois savoir que je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je dis bien de façon automatique, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et ça, tu n'as plus besoin, comme je l'aurais dit à l'église de Besançon, il y a des prédications où on ne prêche plus à l'église, on ne devrait plus prêcher sur le péché. La sanctification, normalement. Parce que si on a pris conscience de qui est en nous, là, nous-mêmes, on va s'arranger. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire des séminaires sur le péché. Hein. On n'a pas besoin de prêcher sur la sanctification. C'est quand nous comprenons qui est en nous, là, nous-mêmes, à cause chose comme la femme enceinte qui prend conscience qu'elle est enceinte, elle doit veiller sur l'évolution de sa grossesse. Nous-mêmes, on va commencer à mettre de l'ordre dans notre vie. Nous-mêmes. Et ça, ce sont les bons fruits de la repentance. Quand quelqu'un s'est véritablement repenti, on voit maintenant ces fruits-là. Elle devient elle-même responsable. Il y a des choses comme certaines personnes qui attendaient le dimanche pour venir confesser leur péché. Parce qu'il y a des églises comme ça. Et comme vous l'avez remarqué ici, je ne vous fais pas le schéma. On commence le culte. Merci Seigneur. On confesse les péchés. On demande le sang de Jésus. Il y a des églises, c'est un rituel. Moi, je sors d'une église où on faisait que ça. Vous savez déjà comment le culte va commencer, comment ça va se terminer. Dès qu'on va arriver, on va tous d'abord demander pardon à Dieu. On va confesser nos péchés. C'est pas mauvais en soi quand on est des bébés spirituels, mais à un moment donné, il faut grandir. L'église, c'est pas un lieu pour confesser les péchés. Quand tu pèches, toi-même, tu dois prendre conscience que tu dois te mettre en règle avec Dieu. N'attends pas l'église le dimanche. Et les gens sont tombés dans des traditions comme ça, et c'est pas bon. Donc, j'insiste sur la prise de conscience. Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Vous ne ferez pas si vous ne savez pas qui il est. Vous allez faire pour lui alors qu'il ne faut pas faire pour lui, il faut faire avec lui. C'est pourquoi il y a une histoire dans la Bible qu'on va lire ensemble sur l'importance de comprendre qui est celui que l'on sert. Parce que je vous l'avais dit dimanche passé, on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. C'est le roi qui donne un sens au royaume. Un royaume où il n'y a pas de roi, ce n'est plus un royaume. Il faut qu'il y ait un roi. Vous voyez, la France a tué son roi. Il n'y a plus de royaume de France. S'il y avait encore un roi, on parlerait du royaume de France. Mais ils ont tué leur roi. Il n'y a plus de roi. C'est le roi qui donne un sens au royaume. Comme il n'y a plus de roi, on rentre dans un autre régime. Donc, nous allons dans le livre, dans l'Ancien Testament, de Samuel. Verset chapitre 21. Hier soir, je reméditais là-dessus avant de me coucher. Comme c'est très tard qu'il me donne ces inspirations-là. C'est très tard. 2 Samuel chapitre 21. Nous allons lire deux passages qui m'ont vraiment beaucoup interpellé. 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 17. Nous allons parler ici d'un homme, un roi appelé David. Et qui il était et ce que les gens ont fait pour lui. 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Alors, on peut commencer même au verset 15 pour comprendre le contexte. 2 Samuel chapitre 21 le verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Précision, David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent, s'il vous plaît, en lui disant, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc, pour ces gens-là, si David mourait, la lampe d'Israël aussi s'éteignait. Ils avaient un autre regard sur David. Ils n'ont pas dit, oh, c'est un fugitif comme nous, on va faire une petite rébellion. Non, le regard qu'ils avaient sur David était totalement différent. Quand vous dites qu'il est comme une lampe, et que si la lampe elle est éteinte, on est dans les ténèbres, on est dans l'obscurité. Donc David était précieux aux yeux de ces personnes. Et on va lire encore la suite dans le chapitre 23. Toujours David avec ces gens-là qui le servaient et qui s'investissait pour lui. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 14. Alors, 2 Samuel 23, verset 14. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répondit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Pour ceux qui étaient là le mercredi, on avait dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et on va terminer par 1 Chronique 12, verset 18. 1 Chronique 12, verset 18. 1 Chronique 12, verset 18. Et c'est par là que nous terminerons. 1 Chronique 12, verset 18. Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi, David, et avec toi. Soulignez bien ce qu'il est en train de dire dans vos Bibles.
C'est 1 Chronique 12.
1 Chronique 12, verset 18. 1 Chronique 12, verset 18.
C'est pas ça.
1 Chronique, chapitre 12, verset 18. C'est bien ça. Amasai. Après, ça dépend des versions, mais sinon, c'est Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Israël. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Voilà quelqu'un qui dit, voilà encore une fois une personne qui voit David différemment. Il dit, nous sommes premièrement à toi, secondo, nous sommes avec toi. Et ça, il faut que nous puissions le comprendre. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire la même chose concernant notre Seigneur? Est-ce que nous sommes à toi et nous sommes avec toi? Parce que eux, ils ont dit ça à leur roi. Nous sommes à toi et nous sommes avec toi. Ce n'est pas seulement nous sommes à toi. Hein. Nous sommes non seulement à toi, mais nous sommes également avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes à toi, nous t'appartenons. On ne s'appartient plus. C'est toi qui peux disposer de notre vie. Ce que ça veut dire, nous sommes à toi. En d'autres termes, fais ce que tu veux à travers nos vies. Nous sommes avec toi, mais partout où tu iras, nous serons là. Tout ce que tu voudras, on le fera parce que nous sommes avec toi. Dans toutes les voies où tu iras, nous sommes là. Nous répondrons présents à l'appel. Question aujourd'hui. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, nous devons chercher les intérêts du roi. Ces hommes-là avaient compris. Ils ont tout fait pour chercher les intérêts de David. Ils n'ont pas dit, nous avons nos vies, il faut la sauver. Si demain David y meurt, l'un de nous peut être le chef. Ils n'ont pas réfléchi comme ça. Ils ont dit, ce monsieur-là, il est la lampe d'Israël. S'il meurt là, on est foutu. Parce que c'est sur lui qu'il y a l'onction. C'est lui que Dieu a choisi. Et nos vies dépendent de lui. Et on ne peut pas le laisser malmener comme ça. Même si nous, on peut mourir, mais lui, il ne peut pas, il ne faut pas qu'il meure. on doit le protéger, on doit le garder. On nous raconte même l'histoire, je pense que ça doit être vrai, par rapport au président de la République, notamment le président américain. Lorsqu'il y a une crise et un conflit, même s'il est avec madame et les enfants, c'est lui qu'on va protéger. Hein? Il faut préserver le président, ce n'est pas sa femme et les enfants, c'est lui qu'on garde, qu'on protège. La femme et les enfants peuvent mourir, mais le chef, il faut le garder. Parce qu'il incarne la nation. S'il meurt là, qu'est-ce qu'on va devenir? Les questions qu'on devrait se poser. Parce que quand on veut chercher premièrement le royaume, mais il faut d'abord que nous comprenions qui est notre roi. Ça ne servirait à rien de chercher les intérêts d'un roi que vous ne connaissez pas. Les intérêts d'un roi que vous n'appréciez pas, d'un roi que vous n'aimez pas, d'un roi que vous ne considérez pas, ça ne sert à rien. Il faut d'abord comprendre qui il est, comment nous le voyons. Parce qu'eux ne le voyaient pas comme un homme ordinaire. Ils le voyaient différemment. Alors la question qui se posait de nouveau ce matin, qui est-il? Si on posait la question à chacun de nous, qui est Jésus pour vous? Qui est-il? Maintenant, dans les réponses que vous allez donner, il faut que ce soit des réponses suffisamment mûries, réfléchies, que vous avez pesées. Parce que souvent, on est dans le standard. Jésus, il est mon sauveur. Jésus m'a délivré de mes péchés. On le dit comme ça. Mais moi, ma préoccupation, c'est que ces paroles, ces déclarations, nous puissions les peser en nous posant les vraies questions. Pourquoi il est mon sauveur? Il m'a sauvé de quoi? Pourquoi je lui suis redevable éternellement? Pourquoi nous sommes éternellement reconnaissants à l'égard du Seigneur? Il a fait quoi? Parce que si nous comprenons qu'il est bien plus important que tout, on va chercher ses intérêts. David a seulement eu envie. David a seulement soupiré. Il a dit, ah. David n'a pas donné les ordres. Hein. Il a seulement dit, ah, si je pouvais seulement boire l'eau là. Tout de suite, ils se sont mis en mouvement pour aller chercher l'eau en question. David n'a pas dit, pourtant il pouvait leur donner l'ordre. Bah, écoutez, allez me chercher l'eau. David ne donne aucun ordre. Il est là, comme on est dans le discours. Il soupire seulement, dit, ah, vraiment, si je pouvais boire l'eau là, vraiment. À l'instant, les soupirs, les désirs du roi sont devenus les ordres. Ils sont partis au péril de leur vie. Pourquoi? Parce que le roi a soif. Je suis en train de dire, le roi a soif. Et pour étancher la soif du roi, ils vont sacrifier leur vie. Parce que finalement, c'est ça. Et quand ils reviennent avec l'eau, David se rend compte. Mais ça, c'est l'eau du sacrifice. Parce qu'ils sont allés qu'à trois dans le camp des Philistins, on aurait pu les tuer. Et ils ont fait ça à cause de moi, prêts à mourir pour que moi, je n'ai plus soif. C'est fort, hein? Prêts à mourir pour que le roi n'ait plus soif. La soif du roi, il dit, il veut que les hommes soient sauvés. Parviennent à la connaissance de la vérité. Le soupir de Dieu, cher des hommes et des femmes, des instruments qu'il va utiliser sur la terre. La question, c'est nous, on est là, on marche avec Jésus, on marche avec Jésus comme ces hommes marchaient avec David. Mais est-ce que nous sommes sensibles au soupir du roi? Est-ce que le cri du cœur du roi nous interpelle ou bien on s'est habitué, chacun s'occupe de ses affaires? C'est ça, les vrais enjeux. Lui, il a son dit, ah, si je peux boire. Tout de suite, ils ont dit, non, il faut qu'on règle ça. Ils n'ont pas dit, bon, on attend, il ne nous a rien dit, nous, on ne bouge pas. C'était le désir du cœur du roi. C'était leur roi. Et lui, notre roi, il dit, cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, il est tout simplement en train de dire, cherchez premièrement mes intérêts. C'est tout, parce que le roi, c'est lui-même. Cherchez premièrement mes intérêts, c'est-à-dire ce qui m'honore, ce qui me glorifie. Les choses où je trouve mon plaisir. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas quelque chose de trop compliqué. Cherchez d'abord mes intérêts. Et les vôtres, là, moi-même, je vais m'en occuper. Mais c'est d'abord moi. C'est le roi avant le moi. Si moi passe avant le roi, ça va être un problème. C'est le roi avant le moi. Et ces gens-là, très belle histoire qui nous pousse à réfléchir, parce qu'hier soir encore, j'étais en train de méditer là-dessus et ça m'a vraiment poussé à réfléchir. Mais ces gens-là, ils le regardaient comment? Qui était David aux yeux des gens qui marchaient avec lui? Il n'était pas monsieur tout le monde. Hein? Il était quelqu'un pour lequel ils étaient prêts à mourir. Vous vous rendez compte? Ils ont plus fait cas de leur vie. Ils étaient prêts à mourir. Tant que lui, il vit, c'est ça l'essentiel. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là par rapport à notre Seigneur? C'est pourquoi il a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est pourquoi la semaine passée, on a parlé des inquiétudes. Souvent, c'est parce qu'on est trop inquiet. Vous savez pourquoi on est inquiet? Parce qu'on n'a pas la maîtrise des variables de la vie. Et comme on n'a pas la maîtrise des variables de la vie et que nous vivons dans une société avec des réalités, souvent c'est ça qui nous absorbe plus que la réalité même de Dieu. C'est un peu comme nous les Africains. Les Africains que nous sommes, pas, je ne veux pas parler des blancs, mais les Africains, nous sommes plus conscients des sorciers, du diable que de Dieu lui-même. Parce que pour croire aux sorciers et au diable, l'Africain n'a pas besoin d'avoir la foi ni d'aller à l'église. On vit ça dans nos familles. C'est notre quotidien. On sait que c'est vrai. Ce n'est pas qu'on nous a raconté des histoires. C'est vrai. À certaines familles, hein, comme m'expliquait ma femme, on est au-dessus là-bas, on a comme on voit, je sais pas, les tonnerres. Il y a des gens et un tonnerre qui les suit là dans la maison. Les gens voient le tonnerre te suit. Comment ça te suit sur mon toit là, ça te suit. Nous, les Africains, on vit ces choses-là. C'est une réalité. Le blanc, tu lui dis, ça, il ne va pas croire. Il dit, non, vous racontez des histoires. Mais nous, les Africains, on vit ces réalités-là, c'est vrai. La magie, la sorcellerie sont des réalités pour nous. Hein. Mais il faut aussi se dire que si le diable existe, c'est que Dieu existe aussi quand même. Mais on est plus conscient du mal que du bien. On est plus conscient de la créature que du créateur. Satan, c'est une créature. Dieu est le créateur. Mais la conscience de notre créateur, on a du mal à l'intégrer. Mais on croit vraiment que le diable est une réalité, qu'il ne faut pas jouer. Surtout si on a mis sur ta vie, ta tête mise à prix. On dit dans la famille, l'année 2015 ne finira pas, toi tu vas y passer. Là, tu peux voir comment les gens ont peur. Ils sont conscients de cette réalité. Mais il y a une autre réalité qui est au-delà de la réalité de la sorcellerie. C'est la réalité de Dieu. C'est ça, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Il y a une réalité qui est bien plus grande que la réalité des magiciens, des occultistes, des satanistes. C'est la réalité de Dieu. Et cette réalité-là, il faut aussi l'accepter. Tant qu'on ne l'acceptera pas, on va continuer à vivre avec toutes ces inquiétudes, avec tous ces peut-être. Est-ce qu'on dirait que lui dit ne vous inquiétez de rien? Cherchez premièrement les intérêts du roi. Et je vous disais la semaine passée, en vous posant une seule question. Est-ce que ce que je fais, je dis, je pense là, est-ce que ça honore Dieu? C'est tout. Il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Est-ce que dans ce que je pense, Dieu est honoré? Est-ce que ma manière de parler, de me comporter, de m'habiller, d'interagir avec les autres, là, est-ce que Dieu est glorifié là-dedans? Si toi-même tu as la réponse que Dieu n'est pas glorifié, donc ne fais pas. C'est tout. Mais si tu fais tout en sachant que c'est mal, tu tentes Dieu. Et si tu tentes Dieu, le bras veut faire entre l'homme et Dieu, l'homme n'a jamais gagné. Ne résistez pas à Dieu. C'est là où maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Parce que ça ne sert à rien. Je me rends compte aujourd'hui avec le temps et l'expérience dans le ministère. Ça sert à de demander à des gens de faire des choses pour Dieu, de s'investir dans l'homme de Dieu. Ils ne comprennent même pas Dieu. Ils ne comprennent même pas qui est Dieu. On va s'égosiller, se fatiguer de dire ça. Ils ne comprennent même pas qui est leur Seigneur. Alors comment ils vont faire? Et beaucoup de pasteurs vivent des frustrations comme ça parce qu'ils comptent sur les gens. Ils pensent que naturellement les gens ont compris, c'est automatique, alors que ce n'est pas automatique pour tout le monde. Parce que naturellement, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas naturel. Hein? Il faut comprendre qui il est. Qui est-il? Est-ce que ça vaut la peine que je sacrifie ma vie pour lui? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis prêt à le faire? À m'oublier pour pouvoir penser d'abord au Seigneur? Est-ce que je suis prêt? Ou bien je me dis non, Dieu va comprendre comme on le fait souvent. Est-ce que je suis prêt à m'investir pour dire ça, Seigneur, c'est pour toi? Ils ont dit nous sommes à toi et nous sommes avec toi. C'est pourquoi la foule était avec Jésus, mais dans cette foule, il y avait aussi des disciples. Et dans les disciples, il y avait ceux qui avaient compris, ceux qui n'avaient pas compris. Donc il y avait la foule. Et dans la foule, il y avait des disciples. Mais parmi les disciples aussi, il y en avait qui n'avaient pas compris. Ce qui fait que lorsque Jésus leur a dit, celui qui veut me suivre là, il faut qu'il mange ma chair et boive mon sang. Ceux qui sont partis, c'est en dehors de la foule. Ils étaient 70, hein, d'ici. Ils sont tous partis. Et les 12 sont restés. Ils posent la question, 12, mais vous là, n'êtes qu'à partir. Là où Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie, on va encore aller où? On va rester avec toi, s'il faut mourir, on va mourir avec toi. Mais la notion de mort aujourd'hui fait peur à notre génération. Quand on parle de mourir, il y a déjà une barrière psychologique qui se met en place dans nos vies. Mais pourquoi je veux mourir? La mort n'est pas toujours physique. Il y en a qui meurent effectivement physiquement pour le Seigneur dans certains pays là. Bénissez Dieu, je ne dis pas qu'il faut se réjouir des autres, mais bénissez Dieu quand même que nous sommes dans un contexte où on ne doit pas mourir comme ceux qui sont dans d'autres pays là, assez très extrémistes là, qui meurent, leur vie vraiment, ils meurent pour le Seigneur, pour leur foi. Mais déjà avec ce que nous avons, on remercie le Seigneur, mais la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'on est prêt à tout donner pour Jésus? Je dis bien tout. Nous n'allons pas être efficaces. Et on ne fera pas bien le travail du Seigneur si ces questions n'ont pas de réponse. On aura beau faire de l'évangélisation, parler du Seigneur, il faut que ce soit des hommes et des femmes qui ont vraiment renoncé à leur vie. Renoncer à votre vie ne veut pas dire qu'il faut ne plus vous occuper de vous. C'est-à-dire mettre les priorités à leur place. La priorité, c'est d'abord le Seigneur. Et répondre au présent quand le Seigneur a besoin de vous. Le reste, c'est Dieu qui s'occupe. Sinon après, je serais mal compris. Bon, il faut plus s'occuper de notre vie. On devait négliger. Le pasteur, il a dit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut revoir les priorités de notre vie. Qui est à la première place? Parce que les actions que nous posons sont le résultat de nos pensées. La façon dont je me comporte a d'abord une source qui est d'abord là-dedans. C'est au niveau de nos pensées. Ça se passe dans la tête, hein. Si je pense à autre chose, je me comporterai en fonction de ce que je pense. Le comportement, il n'y a pas l'autre expression, parce que ça, c'est un peu difficile à prononcer. Il n'y a pas incompatibilité, ou bien il n'y a pas entre la pensée et l'action. C'est-à-dire que l'action est le résultat de la pensée. Donc, on ne peut pas dire que je pense autrement et je fais autrement. Ce n'est pas possible. Nous agissons parce que nous avons pensé à quelque chose. Et la pensée précède l'action. Ce que nous pensons va donner naissance à des actions et à un comportement et à un langage. Donc, si nous ne nous comportons pas bien par rapport aux choses de Dieu, c'est qu'au niveau de notre pensée, on n'a pas bien intégré certaines vérités spirituelles. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Il y a des vérités qui ne sont pas intégrées. Voilà pourquoi je me comporte d'une certaine manière. Quand j'aurai intégré certaines vérités spirituelles, ça va affecter ma manière de me comporter également. Dès que je comprendrai qu'il est vraiment un tout, il est précieux, il est un trésor, comme ils ont dit pour David, c'est une lampe, il ne fallait pas qu'elle puisse s'éteindre, le comportement va suivre. Alors, tout part donc de la rencontre. Est-ce que vous l'avez rencontré? Parce qu'en partie, l'évangélisation, c'est aussi raconter son histoire, l'histoire de la rencontre aussi. Est-ce que nous l'avons rencontré? Et comme nous l'avons rencontré, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? Qu'est-ce qui est resté? Est-ce que ce qui est resté, c'est juste un phénomène surnaturel? Qu'est-ce qui est resté de cette rencontre? Parce qu'il y a rencontre et rencontre. Je vous dis qu'il y a des rencontres qui changent, qui bouleversent votre vie, hein, et ça reste là toute votre vie. Il y a d'autres rencontres, ça passe. Il y a rencontres et rencontres. Et quand on a rencontré le Seigneur, je dis bien que c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier facilement. Il y a des choses qu'on peut oublier dans la vie, mais la rencontre du Seigneur, on ne peut pas l'oublier. Hein. On ne peut pas. Si tu commences à avoir des trous de mémoire, tu deviens amnésique, c'est qu'il y a un problème. Rencontrer Dieu, la rencontrer le Seigneur, Paul ne pouvait pas oublier ce qui s'est passé à la route de Damas. Hein. Abraham ne pouvait pas oublier quand Dieu lui a parlé de façon audible, il ne pouvait pas oublier ça. Hein. Noé ne pouvait pas oublier quand Dieu lui a parlé. Hein. Ah, il ne pouvait pas. David ne pouvait pas oublier comment, surnaturellement, il a réussi à tuer un lion et un ours. Parce que quand on voit ces deux animaux-là, ils sont impressionnants. Hein. Alors imaginez un petit garçon en train de tuer un lion. Mais lui-même, il se dit, mais comment j'ai fait? C'est impressionnant, ça te marque à vie, tu ne peux pas. Heureusement qu'il avait compris que c'était Dieu qui lui avait donné la force. Mais il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Ça te marque au fer rouge. Et nous devons nous servir de cela pour pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur. Et s'il y a de la négligence, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de qui il est. Peut-être c'est le message que le Seigneur m'a donné pour ces derniers temps, pour les nations, pour les églises, hein, parce que ça fait que revenir dans mon esprit, cette affaire de comprendre qui il est. Si on ne comprend pas qui il est, on ne fera pas ce qu'il attend de nous. On va dire, oui, l'évangélisation, à l'église, on nous parle d'évangélisation. Alors, c'est même pas une histoire d'église. Au niveau de l'Assemblée du Maroc, je leur ai dit, il n'y a plus de département d'évangélisation, c'est pour tout le monde. J'ai fait arrêter ça, parce qu'à un moment donné, ça rend paresseux. Quand on dit qu'il y a les gagneurs d'âme dans l'église, les autres se disent, mais ça, c'est pour les autres. Hein. Donc, moi, je viens à l'église, je n'ai pas besoin de gagner les âmes, parce que il y a des gens qui sont spécialistes pour gagner les âmes. J'ai arrêté ça. J'ai plus de département de gagner d'âme. J'ai dit que l'évangélisation, c'est l'église entière qui doit s'engager là-dedans. Donc j'ai fait annuler tout ça. Alors qu'avant, je l'ai mis en place par justement tradition, parce qu'on a fait des choses à l'image de nos pères au pays. Mais avec le recul, tu te rends compte que c'est pas bon. Il n'y a pas un département de gagner d'âme. Tout chrétien est un gagneur d'âme. Tout chrétien doit penser au salut des âmes. Pourquoi on va mettre en place un département de gagner d'âme alors que c'est notre mission à tous, même nous les pasteurs. Donc c'est pas quelque chose qui doit être dans un compartiment pour des personnes spéciales. Ça n'a rien à voir avec le ministère d'évangéliste. Le salut des âmes, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui doit réfléchir, qui doit se préoccuper comment je peux gagner les âmes. Je vous dis pas d'être comme des malades dans la rue en train de crier, Jésus vous aime. Je lui dis tout simplement que ça doit être une préoccupation. Réfléchir dans la méditation, dans la prière. Seigneur, comment je peux être utile? Comment tu peux m'utiliser? Je veux bien. Et c'est là où je vous avais dit que vous allez prier en fonction de vos besoins. Il me manque ceci, il me manque cela. Voilà mon environnement, équipe-moi davantage par rapport à ça parce que je veux être efficace. C'est comme ça. Tout chrétien qui se soucie des intérêts du royaume de Dieu, il doit réfléchir comment je peux parler à ces gens-là. Donne-moi la sagesse pour parler à mes voisins, à mes collègues du travail. Seigneur, aide-moi dans ma vie pour que ma vie reflète véritablement la vie d'un enfant de Dieu. Ça devait être nos préoccupations, on doit se préoccuper de ça. C'est pas comment devenir propriétaire, comment devenir, je sais pas comment, milliardaire, comment, non. La priorité, c'est comment faire avancer le royaume de Dieu là où je suis. Les autres choses, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais si tu commences à te réfléchir, ma vie, comment je vais devenir un grand homme d'affaires? Comment je vais avoir mon million? Comment je vais faire ce, cela? Si c'est ça ta préoccupation, ta priorité, c'est que dans l'échelle des priorités, tu as tout mis à l'envers. C'est d'abord son royaume. Comment là où tu es, avec le peu que tu as, tu peux gagner, tu peux toucher les personnes, tu peux avertir, interpeller les gens, quels que soient les canaux que Dieu va te donner d'utiliser. Le plus important, c'est que Christ doit être annoncé. À travers ta vie, à travers, je ne sais pas, tu peux écrire, tu peux faire des choses. Bref, il faut que Christ soit annoncé quand même. Sinon, ça ne sert à rien. On va se retrouver là. Si les gens ne comprennent pas, on va tourner. On va tourner. C'est une préoccupation. Maintenant, dans cette préoccupation, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Mais ça doit être une préoccupation. Comment toucher, comment interpeller les gens? Comment ramener les gens au Seigneur? Ça doit remplir notre tête, notre pensée. Plus tu es rempli de ces choses-là, plus Dieu est content. Tu es rempli des choses du royaume. On dit chercher les choses qui sont en haut. On nous encourage à le faire. Chercher les choses qui sont en haut, les choses qui appartiennent à Dieu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à sa vie non plus, mais je parle ici de priorité, parce qu'il ne faut pas que je sois incompris. Je parle ici de priorité. La priorité des priorités, au-delà de tout ce que l'on peut faire, c'est de réfléchir, c'est de vraiment prier, c'est de se dire, mais je suis là, je ne dois pas occuper inutilement la terre. Il faut que je sois utile, il faut que je fasse quelque chose. Seigneur, tu m'as mis dans un environnement, qu'est-ce que je peux faire ? Être à l'écoute, prier pour ça, Dieu peut donner une direction, Dieu peut donner des stratégies, parce qu'il voit que tu as compris, tu commences à te mettre en mouvement. Mais si tu ne te mets pas en mouvement, ça va être compliqué. Cherchez premièrement les intérêts du roi. Si vous voulez relire le passage, relisez ça peut-être de cette manière-là. Parce que quelquefois, quand on dit chercher le royaume, c'est un peu abstrait, c'est un peu compliqué. Je vous simplifie la lecture de ce passage. Cherchez premièrement les intérêts du roi, c'est-à-dire notre Seigneur. Ses intérêts, c'est d'avoir une vie juste, la justice, la vérité. Il faut chercher les intérêts de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Les intérêts de Dieu avant tout. La question qui se pose, arrivé chez toi à la maison, ben, tu te reposes les mêmes questions. Qui est-il ? Qui est-il ? Comment je le vois ? Est-ce qu'il est vraiment important ? Est-ce que vraiment il est important ou pas ? Est-ce qu'il est vraiment précieux ? C'est comme on nous raconte l'histoire, je vais terminer par là. Dans une église, on a voulu tester ceux qui réellement étaient prêts à aller à s'engager pour le Seigneur. Je pense que le pasteur a fait un arrangement avec des personnes qui devaient jouer le rôle des bandits et tout ça là. Et puis en plein culte comme ça là, il y a des gens armés et tout ça là, ils sont rentrés avec des armes. Vous dites, bon, lesquels sont chrétiens ici, lesquels sont Jésus là? Et chacun commençait à se défiler, personne quasiment s'est prononcé pour Christ. Alors c'était une mise en scène pour attirer l'attention des gens, on dit des choses de ce que nous vivons cela. Là, ils sont rentrés là, lesquels sont chrétiens, qui sont de Jésus? Ils sont prêts à mourir pour Jésus et tout ça là. Et ils ont fait semblant de tirer sur le pasteur. Il y a plusieurs histoires comme ça là. Et pour voir justement. Et qu'ils sont prêts à mourir pour Jésus. Et qui seront les suivants et tout ça. Et chacun commençait à se désengager. Ah non, non, moi je venais, moi m'inviter, moi ceci, moi cela. Et à la fin, après le pasteur, il s'est réveillé parce qu'il n'était pas mort. Non. On a dit voilà. Les gens viennent à l'église. Ils disent qu'ils aiment Jésus. Ils sont attachés à Jésus. Mais regardez là. Une petite mise en scène comme ça, tout le monde a régné. Ah non, 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 Jésus, là, moi, on m'a invité. Mais souvent, c'est ça la vie. C'est pourquoi faisons attention plus à notre vécu de tous les jours plutôt qu'à ce que nous disons dans les rassemblements comme ça. Parce qu'ici, c'est trop facile, hein? C'est très beau, on adore Dieu, on pleure dans sa présence. Mais n'oubliez pas que Dieu nous mettra toujours en situation. Et les situations dans lesquelles Dieu nous mettra, ben, ça sera dans notre quotidien. Et c'est là qu'il va voir. Est-ce que finalement la personne elle va continuer à regarder vers moi ou bien elle va être prise dans la panique générale et puis elle va m'oublier, elle va se comporter comme un païen en disant la fameuse phrase « Dieu comprendra » ou bien « Dieu seul sait ». Cette phrase, je dis qu'elle est trop facile et ça révèle une profonde incrédulité quand même parce qu'on ne peut pas arriver dans les situations les plus difficiles et à ce moment-là dire « Dieu il va comprendre ». Dieu va comprendre quoi, frères et sœurs? Dieu comprend que sa parole, hein, comprend pas autre chose. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'évangélisation. Nous voulons véritablement que chacun de vous se réveille là-dessus. Et surtout, moi, ma prière, c'est que vous puissiez comprendre réellement qui il est. Comme ça, demain, si Dieu permet que quelqu'un arrive ici, même si nous ne sommes plus là, bien où vous irez, quand les gens vont vous rencontrer, ils doivent sentir que vous connaissez Dieu. Si j'échoue à ce niveau-là, ça va être dramatique. Hein? Parce que dans les églises que j'ai sillonnées, c'est un vrai problème ça. Les gens ils viennent, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent adorer. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le service. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter. C'est pourquoi la pensée que Dieu m'avait imprimée dans mon esprit dans la chambre d'hôtel le samedi passé, que je devais dire à l'église, pas seulement celle de Besançon, mais l'église Corps du Christ, c'est Psaume 46, verset 11, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et l'Esprit peut me faire comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. On a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais il faut d'abord s'arrêter. Dire, arrêtez d'abord, stop. Reconnaissez. Sachez d'abord qui je suis. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça sans savoir qui je suis. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et c'était très fort dans mon esprit, je leur ai dit, c'est ça, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter. Est-ce que je suis toujours dans les voies de Dieu? Il faut s'arrêter, est-ce que je marche convenablement? Est-ce que je le connais? Quelle image j'ai de Dieu? Il dit, arrêtez et sachez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Et ça, je vous inviterai à pouvoir le méditer cette semaine et que vous puissiez également aussi vous arrêter pour vous dire, mais c'est vrai, je le sers, je fais des choses, mais est-ce que vraiment je le connais? Est-ce que je le connais? Et si je le connais, est-ce que cette connaissance que je prétends avoir, est-ce que je suis capable avec cette connaissance de tout donner pour lui? Parce que certains pourront dire, oui, je connais Dieu. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là tout simplement pour nous faire poser les bonnes questions. Même ceux qui prétendent connaître Dieu et moi-même qui vous parle. Est-ce que nous sommes prêts à tout donner pour lui? Parce que la question n'est pas... Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Mais ceux qui connaissent, est-ce qu'on est prêt? Jusqu'où on est prêt à tout donner? Je dis bien tout, hein? Tout donner pour le Seigneur, hein? Est-ce qu'on est prêt? C'est ce qu'il a besoin dans ces derniers temps, des hommes et des femmes qui sont prêts à tout donner. Meilleur de leur temps, meilleur de leur temps, le meilleur, donner tout pour le Seigneur. Et ça, ça se voit dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dans la vie est une offrande au Seigneur, ça se voit. Parce qu'on voit ses priorités. On voit ses priorités. Et à travers tes priorités, on peut voir la place que Dieu occupe. Quelquefois, on n'a pas besoin d'être un devin ni un prophète, rien que nos priorités. Si chacun s'examine lui-même et voit ses priorités, il va savoir quelle place Dieu a dans sa vie. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, chacun de nous, avec honnêteté, peut savoir à quel niveau il est. Est-ce qu'il est en numéro 2, au numéro 3, numéro 1? Donc, c'est pourquoi nous devons réfléchir. Donc, voilà, pour chercher le royaume, chercher les intérêts du roi, nous allons passer à la Sainte-Seine et manger rapidement quelque chose ensemble. Mais je vous assure, nous sommes dans les temps où il faut connaître Dieu. Hein? J'insiste là-dessus, connaître Dieu. Parce que ça ne va plus. Sur la terre, ça ne va plus. Hein? Ah oui, je vous l'avais déjà dit une fois ici en passant, mais il faut connaître Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, quand ça va chauffer, votre foi va être renversée, ça va être compliqué. Parce qu'avec toutes les fausses doctrines, avec tous les mouvements qui se passent aujourd'hui là, si votre foi n'est pas dans la révélation du vrai Dieu là, ça va être compliqué parce qu'il y aura tellement des doutes, plein de doutes qui vont rentrer. Après vous saurez plus ce qu'il peut danser, ça va être compliqué. Hein? Au jour d'aujourd'hui, chacun de nous doit être sûr qu'il connaît Dieu, que Dieu s'est révélé à lui et connaître la valeur de ce Dieu là, parce que ça va plus. Hein? Même les Bibles, à un moment donné, ça ne servira plus à rien. Mais si tu n'as pas rencontré Dieu, là, il y a des gens qui n'avaient pas les Bibles que nous avons aujourd'hui, mais qui ont gardé leur foi pendant des années à cause de la révélation qu'ils avaient. Hein. Nous, aujourd'hui, on a la Bible, c'est vrai, on bénit le Seigneur. Mais il y a des gens à l'époque qui n'avaient pas ça. Mais comment ils ont fait pour garder la foi? Nous arrivons à des moments où ça devient de plus en plus difficile. Là, il faut faire une lecture, je le répète, lecture prophétique des temps. Ça ne va plus sur la terre, le Seigneur est vraiment à la porte. Hein. Et ceux qui ne seront pas enracinés dans la foi mais vont se retrouver de l'autre côté et vont commencer à dire, ah oui, cette affaire de Dieu là, même moi j'avais des doutes, il y a trop de contradictions, il y a trop de machins. Et quand vous allez ouvrir toutes les portes aux doutes et aux raisonnements, le diable, je les ai eus. Pourquoi? Parce que les gens comme ça, là, ils n'ont jamais connu le Seigneur. Mais celui qui a connu le Seigneur, même si demain, je vous dis la vérité, je prends le ciel à témoin, même si demain on me dit que la Bible là est fausse, elle est falsifiée. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ma relation, ma rencontre avec Dieu, là, ça, on n'a pas falsifié. Hein? Mm-hmm. Je sais qui j'ai rencontré. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi faites attention. Les gens vont chercher à détruire votre foi à travers le livre, à travers beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas rencontré le Seigneur et que vous ne vivez pas une communion avec Dieu et avec son esprit, ça va être compliqué dans les temps qui arrivent. Ça va être compliqué. Il faut chercher Dieu le plus que jamais aujourd'hui. Hein. Chercher à connaître le Seigneur parce que ça ne va plus. Ça ne va plus, que Dieu nous aide. Quand on entend à droite et à gauche ce qui se passe, tu dis, Seigneur, préserve-moi, garde-moi, parce que je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Ne nous réjouissons pas de la chute. Vous savez, quand Saül est tombé, David a pleuré sérieusement la mort de Saül. Hein? Sérieusement. Alors qu'il aurait pu sabler la mort de Saül. Il dit, ah, mon persécuteur est mort, je peux maintenant régner en paix. Mais regardez, ceux qui lisent la Bible, quand Saül est mort, regardez comment David a pleuré Saül. Il a pleuré un oint de l'Éternel qui est tombé. Et de cette manière, vous avez vu comment Saül est mort? La mort d'un roi, comment il est mort, la mort de Saül. David a pleuré. Peut-être qu'il faudrait arriver à des moments où aujourd'hui on doit pleurer, le Seigneur, pour la chute des oints, pour la chute des hommes de Dieu. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Au mieux qu'on pleure pour les autres, parce que nous aussi, si on tombe, ils vont pleurer pour nous, peut-être. Mais si on ne le fait pas, je vous assure, ça ne va plus là. Ah oui. Facilement on critique, facilement on voit le mal, c'est vrai. On voit les choses qui sont vraies, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut, je pense, faire comme David. Pleurer sur les Saül qui sont tombés. Pour dire, Seigneur, mais comment il en est arrivé là? Seigneur, si tu peux l'accorder, ne fût-ce qu'une petite brèche pour sa repentance. Et moi-même qui prie, Seigneur, garde-moi. Comment il en est arrivé là, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül est tombé. Et on a plein en ce moment qui sont en train de tomber. En même temps, Dieu dévoile, c'est vrai. Mais je crois que ça doit nous interpeller. Alors, on va prier ce